Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel, Driss Etazaoui, vice-président de l'association des maires, villes et banlieues, vice-président de l'agglomération d'Évreux, président du Modem de l'Eure. Bonjour monsieur.
Bonjour François-Xavier, merci pour votre invitation.
Vous êtes le bienvenu. Tout d'abord, ce crime qui a ému les citoyens de France et de Tunisie. Le meurtre, samedi dernier, de Hichem Mirawi, ce Tunisien établi en France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, estime que ce meurtre dans le Var est clairement un crime raciste, sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste, a-t-il dit. On se souvient des propos de l'ancien maire de Lyon, l'ancien ministre Gérard Collomb. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on ne vive face à face. Estimez-vous, Driss Etazaoui, que l'on vit toujours côte à côte aujourd'hui en France?
Tout d'abord, si vous le permettez, j'aimerais adresser mes sincères pensées à la famille et aux proches de la victime, aux proches d'Hicham. Tué vraisemblablement parce que il est d'origine tunisienne, parce qu'il s'appelle Hicham, tué par une personne qui vraisemblablement est sur les réseaux sociaux et dans les interactions sociales qu'il pouvait avoir, était proche des milieux d'extrême droite. Bruno Retailleau a raison de qualifier son assassinat tel qu'il l'a qualifié, c'est-à-dire de meurtre anti-musulman, anti-arabe. Et il est clair que nous vivons actuellement une période assez sombre, une période troublée. Je l'avais déjà dit il y a quelques années sur votre plateau, les choses ne s'arrangent pas. Fort, le premier secrétaire du PS l'a dit justement en parlant d'un racisme d'ambiance. Je trouve qu'effectivement le climat dans notre pays n'est pas propice à la fraternité.
Pourquoi les choses ne s'arrangent pas?
Je vous le dis simplement, aujourd'hui, on a un certain nombre de messages qui sont à rebours de ce que devrait être la cohésion nationale. On a des messages de la part d'un certain nombre de médias qui s'obstinent aujourd'hui s'évertuent à créer un fossé et à encourager le choc des civilisations. Ces médias-là sont bien connus, ils ont pignon sur rue et leur ligne éditoriale est assumée. Au-delà des médias, vous avez aussi des personnalités politiques qui entretiennent ce trouble, qui entretiennent la confusion, qui entretiennent la suspicion entre nos concitoyens. Et contre cela, il faut s'élever. Vous savez, la France, elle est une et indivisible. Indépendamment de nos trajectoires, indépendamment de nos cultures, de nos foi et de nos histoires, ce qui est important, c'est de vouloir la grandeur de la France. Et vouloir la grandeur de la France, c'est d'être français, et donc d'être considéré comme tel. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des hauts responsables politiques, que des médias mainstream, diffusent de la haine, de la suspicion et de la division au sein de nos concitoyens et au sein de la société.
Et c'est d'ailleurs le sens de la journée que vous avez co-organisée hier, cette journée nationale de la cohésion des territoires.
Vous savez, nous autres élus locaux, qu'on soit de la ruralité ou de l'urbanité, qu'on soit issu des villages ou des quartiers, on ne se résigne pas. On ne se résigne pas à voir notre pays sombrer dans le racisme, dans les discriminations, dans les préjugés et dans les fantasmes. Et donc, nous avons un devoir d'exemplarité. Et c'est la raison pour laquelle, à Évreux, trait d'union, pour une journée en tout cas, entre les territoires ruraux et les territoires urbains, entre les villes et les quartiers, les bourgs et les cités, et bien ensemble notre ville, nous avons reçu les deux présidents d'associations, le président des maires ruraux, Michel Fournier, le président des villes de banlieue, Gilles Leproust, et quelque part, c'est la banlieue et la ruralité qui étaient présentes hier à Évreux, et bien, pour exprimer la nécessité de renforcer leur coopération et de lutter contre celles et ceux qui veulent opposer les territoires entre eux. Quand on est ancré dans la réalité telle que les élus le sont, avec leurs mêmes préoccupations auprès de leurs administrés, eh bien, nous n'avons d'autre intérêt que de travailler ensemble, de mieux nous comprendre, de davantage nous parler pour envisager l'avenir. On ne se résigne pas.
Alors, le week-end dernier, Driss Etazaoui a été marqué par des violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il y a eu 2 morts, un policier gravement blessé, de très nombreux dégâts, notamment à Paris, beaucoup de voitures brûlées. Plus de 550 personnes interpellées, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a jugé les premières condamnations trop légères. Est-ce aussi votre point de vue?
Vous savez, quand on est responsable politique, même le petit responsable politique tel que je suis, on évite de commenter les décisions de justice. C'est le principe même de la séparation des pouvoirs. Pour autant, ce qui s'est passé avant le match, parce que ça s'est produit avant le match, pendant le match et après le match, est tout simplement scandaleux, inadmissible, inacceptable dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter qu'une horde, qu'une poignée de voyous, eh bien, sème la terreur dans la capitale parisienne et dans un certain nombre de villes de province. Ce n'est pas acceptable. Et effectivement, la main de la justice ne doit pas trembler. Il appartient au juge de rendre ou de sanctionner à la hauteur et de manière proportionnelle aux actes qui ont été commis. Donc, aujourd'hui, que les choses soient claires, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Celles et ceux qui se rendent coupables de ces agissements-là, il faut durement les sanctionner. Et en même temps, vous savez, je suis toujours attaché à l'excuse de minorité. Je pense que quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, eh bien, on n'a pas toujours la maturité nécessaire. Et souvent, on a des effets de foule, on a des effets de groupe, des effets collectifs qui vous emmènent dans des lieux où vous n'auriez pas souhaité aller, où vous n'auriez pas été de façon individuelle. Et donc, je suis très attaché à l'excuse de minorité, mais pour autant, ferme et déterminé à sanctionner les voyous, celles et ceux qui, en majorité, et tout en étant majeur, eh bien, perpétuent et commettent des actes qui ne sont pas acceptables dans notre République.
Mais est-ce qu'il faut adapter la loi à la réalité, à l'évolution de la violence, hein? C'est ce qu'affirme la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Absolument, j'ai écouté Sophie Prima, élue des Yvelines, dire que la société avait changé, que les attitudes, les comportements avaient changé et que la justice devait également évoluer. Écoutez, il est vrai que la société n'est pas la même qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. La violence des réseaux sociaux, le flux massif des informations, l'immédiateté des échanges, la radicalité des comportements font que aujourd'hui, eh bien, nos jeunes, nos moins jeunes aussi, peuvent être embarqués, embringués, eh bien, dans des faits de violence, dans des comportements radicaux. Et pour le coup, si la justice doit changer, c'est d'abord le législateur qui doit faire évoluer la justice. Et il appartient, et je le dis à Sophie Prima, mais il appartient au législateur, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, de voter, de changer la loi, et de faire évoluer la loi. Alors dans quel sens? Ça, il appartient aux parlementaires de le dire. Mais pour que la justice change, il faut que la loi change.
Vous dites que vous êtes attaché à l'excuse de minorité. Justement, qu'est-ce que vous proposez parallèlement?
Vous savez, aujourd'hui, pour éduquer nos enfants, on a besoin de marcher sur deux jambes. La répression, parce qu'il faut sanctionner. Et la sanction permet de comprendre à celles et ceux qui la subissent, et celles et ceux qui la méritent aussi, quelque part, et bien qu'ils ont fauté. Et donc la sanction est absolument nécessaire. Et elle doit être proportionnelle, et bien, à l'acte délictueux qui a été commis. Et la deuxième jambe, c'est la prévention. Vous ne pouvez pas ne pas prévenir, ne pas consentir un certain nombre de moyens humains, matériels et financiers pour faire en sorte que nos jeunes, parce que si l'éducation est d'abord la responsabilité des parents, c'est aussi la responsabilité de la société. L'enfant, il n'est pas toujours dans son domicile, il est aussi à l'extérieur. Et donc, il est éduqué par la rue, il est éduqué par son environnement et aussi par la société. Et donc, nous avons une part de responsabilité dans la manière dont l'enfant grandit et il évolue. Je pense que la question éducative est éminemment importante. Et quand je dis la question éducative, je pense aussi à l'instruction. Je pense aussi à l'école. Aujourd'hui, quand un enfant n'a pas de vocabulaire, quand il n'a pas suffisamment de mots pour exprimer un désarroi, pour exprimer une colère, eh bien, il en vient à la violence. Et il nous appartient à nous, responsables politiques, qui sommes aux affaires, de donner à nos enfants la possibilité et la capacité de sanctuariser, d'incarner leur colère, leur désarroi, par des mots, par du vocabulaire. Et la question des fondamentaux à l'école est éminemment importante. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut travailler, notamment au travers des cités éducatives.
Vous organisez d'ailleurs des dictées sur le plan national, et cela fait partie des réponses. Mais ce type de réponse, elle date, cela fait des années que l'on entend cela. Est-ce qu'il faut faire évoluer justement les choses?
Bon, ça fait des années qu'on en parle, mais est-ce qu'on se donne réellement les moyens? Vous voyez, je parlais des cités éducatives. Il y a eu une promesse du gouvernement que, de déployer ces cités éducatives sur l'ensemble des territoires prioritaires. et aussi sur la ruralité, j'insiste bien, parce que hier, on a eu la journée, comme vous le savez, de la cohésion nationale, ruralité, urbanité, village et quartier. Et je crois que la ruralité aussi a besoin d'efforts supplémentaires, parce que le sondage le montre d'ailleurs. Pardon, je fais juste une petite digression, cher François-Xavier, pour revenir quand même à ce sondage qu'on a commandé auprès de l'IFOP, avec notre ami de Confinews, pour dire que aujourd'hui, en ruralité, comme dans les quartiers populaires, quand vous sondez nos concitoyens, ils ont le sentiment d'être l'angle mort des politiques publiques d'Emmanuel Macron, de ne pas être suffisamment considérés, que ce soit sur les questions de sécurité dans les quartiers populaires, où on pense qu'on n'a pas suffisamment de sécurité, qu'on n'est pas assez en sécurité, de la même manière qu'en ruralité, on se plaint des déserts médicaux et de l'absence des services publics ou de l'accès, en tout cas, aux services publics. Et donc, ceux-là, eh bien, sont dans l'angle mort de la politique publique. Et comment, finalement, on donne plus, eh bien, à ceux qui ont moins. J'en reviens à la question de la cité éducative. Vous me dites, voilà, mais tout ça, on le dit depuis des années et des années, mais encore faut-il se donner les moyens de nos ambitions. Est-ce qu'on a véritablement les moyens? Alors, tout n'est pas qu'une question de moyens. Vous savez, moi, je suis très attaché à la France et à notre pays. Et je pense que pour nos quartiers, on a un certain nombre de groupes d'enfants qui se sont... des enfants plus que les enfants de la République. Et là-dessus aussi, il faut travailler à la citoyenneté. Alors, à côté, concomitamment aux efforts sur les fondamentaux, on a absolument besoin de travailler aussi sur les questions de citoyenneté, d'identité, qu'est-ce qu'être français. Et ça aussi, c'est absolument nécessaire pour faire République ensemble.
C'est d'ailleurs ce qu'a proposé le Premier ministre François Bayrou, revenir sur cette question, qu'est-ce qu'être français? Avant de clore cette émission, Driss Etazaoui, les musulmans s'apprêtent à vivre la fête de l'Aïd el-Adha. Pourquoi est-il important, selon vous, que les responsables politiques fassent part de leurs vœux à l'occasion de cette grande fête religieuse, comme beaucoup le font d'ailleurs pour l'ensemble des confessions?
Vous savez, François-Xavier, la laïcité, ce n'est pas la négation des cultes. La laïcité, ce n'est pas l'effacement des religions. La laïcité, c'est pour la République de considérer celles et ceux qui souhaitent pratiquer leur foi, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou autres, eh bien de pouvoir la pratiquer en toute sécurité et de manière sereine. De la même manière que la République permet à celles et ceux qui ne veulent pas, enfin qui sont athées et qui n'ont pas de foi, eh bien de pouvoir l'être aussi sans aucune difficulté. Je crois que nos politiques, nos responsables pourraient s'enorgueillir de souhaiter une fête aussi bien à nos amis et à nos coreligionnaires musulmans que chrétiens, que juifs. Parce que nous sommes dans une communauté de destin. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre ensemble et de bien vivre ensemble. Et la cohésion ne doit pas être un vain mot. Elle doit s'incarner dans les faits et elle doit s'incarner dans les mots. Et souhaiter une bonne fête, mais que ce soit pour l'ascension, pour les chrétiens, que ce soit l'Aïd pour les musulmans, eh bien, il n'est pas... Enfin, je sais que le maire d'Évreux, localement, et beaucoup d'autres maires le font également, pendant le mois de Ramadan, vont à la rencontre des fidèles pour leur souhaiter un bon mois de Ramadan. Je crois que l'Aïd ne doit pas échapper à cela, de la même manière que les autres fêtes des autres religions ne doivent pas y échapper non plus.
Et vous profitez donc de ce micro pour souhaiter une bonne fête à l'ensemble des musulmans.
Absolument, une bonne fête dans l'esprit de la République.
Merci beaucoup, Driss Etazaoui.
Merci, François-Xavier.
Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des maires, villes et banlieues, vice-président de l'agglomération d'Évreux, président du MoDem de l'Eure. Le MoDem, c'est bien entendu le mouvement démocrate. Vous êtes bien sur Radio Orient. Excellente suite de programme.
C'était Pluriel